Bon, maintenant on va prendre les questions deux par deux, monsieur, et après François Veil.
Oui, Jean-Guillaume Péladan, je n'ai pas de formation agronomique, je suis un affreux polytechnicien avec un passage aux mines après. Une question d'actualité, Copenhague, la conférence a commencé ce matin. L'agriculture est à la source d'à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc quelle sera selon vous la contribution de l'agriculture en France à la réduction des gaz à effet de serre, dont on parle globalement, hein, on parle de facteur 4, facteur 5. Donc j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus, sur qui pose la question derrière de la durabilité de cette agriculture.
François Veil.
Je voulais faire quelques commentaires sur les propos concernant la Chine et l'Inde. Sur la Chine, d'abord, il y a eu des émeutes de la faim dans les campagnes chinoises. Deuxièmement, il y a globalement en Chine des déficiences alimentaires, notamment en termes de protéines. Donc il y a de la malnutrition en Chine, même s'ils sont arrivés à un meilleur niveau par rapport aux famines. Quant à l'Inde, il y a plusieurs facteurs inquiétants. D'abord, c'est un pays fédéral avec des États qui sont extrêmement forts et qui ont des politiques pas forcément cohérentes et des fortes inégalités en allocation agricole. Donc il y a des conflits importants qui peuvent arriver, à mon avis, à de véritables risques de guerre civile, notamment dans l'allocation de l'eau entre régions. J'en ai des preuves chaque année quand je vais dans le sud de l'Inde. Donc ce n'est pas simple, et à mon avis, ce qui va encore plus compliquer les choses, c'est que s'il y a la montée des eaux prévue qui risque de submerger le Bangladesh, que va devenir le problème agricole de l'Inde avec 200 millions de réfugiés?
Il faut quand même se rendre compte qu'on est au bout d'une révolution technologique. La révolution verte est au bout de ce qu'elle peut faire. Et un des problèmes que nous voyons depuis les années 2000, c'est que les rendements mondiaux n'augmentent plus. Et que cette révolution qui a permis de nourrir à peu près 4 milliards de gens de plus depuis 60 ans, en augmentant massivement les rendements dans certaines régions du monde, en particulier en Chine, en Inde, en Europe, aux États-Unis, elle est au bout. Et quelque part, elle a fait les choses les plus faciles. Ça consistait à produire plus avec plus, hein, toujours plus de terre, toujours plus d'irrigation, toujours plus d'énergie et toujours plus de chimie. Et cette fois-ci, maintenant, on arrive vraiment aux limites de la planète. Il faut continuer à produire plus. Alors, les chiffres hésitent, est-ce qu'il faut doubler ou augmenter de 70%? Mais cette fois-ci, avec moins. On cultive chaque année moins de terre. Et puis, l'énergie devient un gigantesque problème. Surtout si, non seulement, il faudra apprendre à produire de la nourriture sans énergie, mais il faudra aussi produire un peu d'énergie sur nos champs. La chimie est en bout de course, on pourrait dire. Toutes les grandes inventions de la chimie, très probablement pour l'agriculture, ça y est, elles sont derrière nous. Mais on n'attend pas de jackpot chimique quelque part, et puis elle a très mauvaise cote. Et puis de toute façon, la chimie, c'est aussi beaucoup d'énergie. Et puis, on va maintenant affronter le résultat de nos inconséquences. Hein, on va avoir beaucoup d'épidémies avec beaucoup moins de biodiversité. Et effectivement, le réchauffement de la planète, pour l'agriculture, c'est quand même très compliqué. C'est beaucoup trop d'eau dans plein d'endroits, et pas du tout assez dans d'autres. Hein, des rendements sont compliqués. Donc, même dans nos pays, on est devant l'obligation d'une nouvelle révolution écologiquement intensive, grosso modo, puisque le siècle du pétrole et de la chimie s'arrête. Maintenant, il nous reste la mère nature. Il nous reste, par exemple, quelque chose, pour ceux qui ne sont pas du secteur, quelque chose d'aussi, je dirais, associé au modernisme agricole qu'est le labour, c'est fini. Hein, ça fait 400 ans que tous les enfants savent que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, mais c'est probablement fini. On n'a plus les moyens de labourer, et avec l'œil du 21e siècle, le labour est probablement plus un inconvénient qu'un avantage. Donc il va falloir effectivement transformer le petit nom des agriculteurs qui étaient devenus des laboureurs. Maintenant, leur nouveau métier, c'est éleveur de vers de terre. C'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu le symbole de cette nouvelle agriculture à base d'intensification des processus biologiques au lieu d'intensifier les processus artificiels. Et là, de ce point de vue-là, on est dans des contradictions très importantes, puisque chez nous, on ne veut pas d'OGM, donc on se coupe quelque part de toute une possibilité de modernisme. Donc la société sait dire à peu près ce qu'elle ne veut pas, mais elle ne sait pas dire ce qu'elle veut. Et effectivement, cette nouvelle révolution agricole, elle nécessite de nouveau un grand sursaut dans les pays à agriculture efficace et on ne la voit pas venir.
Alors, je vais prendre deux questions.
Michel Cruciani, Université Paris-Dauphine. Deux questions. Premièrement, est-ce que le modèle du commerce équitable, s'il était développé à grande échelle, pourrait apporter une réponse en ce sens qu'il ce serait une espèce de plan Marshall indolore où on rémunérerait par des prix justes les agriculteurs des pays pauvres? Et deuxièmement, est-ce qu'il existe à votre connaissance quelque part dans le monde une politique qui soit à la fois favorable aux biocarburants et en même temps compatible avec le développement des besoins alimentaires, l'avantage étant que ça procure un revenu complémentaire aux agriculteurs?
Alors, on attend pour les réponses. François Brousse.
C'est une question de candide parce que je suis ni INRA ni polytechnicien. Donc, si j'ai bien compris, la solution que vous proposez, elle repose sur création d'une politique locale, une politique donc nationale agricole, par ailleurs des prix protégés, et pour que ça marche, comme il n'y a d'argent ni des contribuables dans ces pays, ni des consommateurs, donc une sorte de plan Marshall, mais dont Bruno Parmentier nous a rappelé que le plan Marshall, ça avait quand même coûté 5% du PIB des États-Unis à l'époque. Comme on sait actuellement, du fait des conséquences de la crise, qui vont durer un moment avant d'en résorber les effets dans nos endettements, il va falloir convaincre les pays qui peuvent financer, puisque vous avez dit que c'est moins une aide alimentaire en fait qu'une aide financière au service de cette solution, il va falloir convaincre les pays développés d'envoyer cet argent. Alors on peut faire appel pour trouver ces moyens financiers à des slogans du genre « la fin justifie les moyens », mais je ne sais pas si ça sera suffisant. Et par ailleurs, une des questions qui sera posée, parce qu'elle revient régulièrement, c'est quelle garantie peut-on avoir que cet argent ira servir les solutions que vous préconisez, dans la mesure où l'aide, si on comprend bien, elle doit venir à l'État-nation qui aura créé cette politique agricole, mais d'un autre côté, on entendait dire aussi que les vraies solutions, elles doivent être très concrètes sur le terrain et très locales, c'est-à-dire qu'elles doivent reposer sur des silos et des infrastructures de transport, etc. Et donc, comment peut-on avoir des garanties que l'argent qui est accordé à un pays, donc à l'échelle nationale, du fait des corruptions que l'on connaît, ira bien à l'échelle locale pour servir le but que l'on veut atteindre? En d'autres termes, est-ce que, une fois que l'on serait d'accord sur ce genre de choses, quel est le dispositif de contrôle du bon usage de cet argent que l'on peut envisager pour ne pas être soit les yeux fermés et que l'argent se volatilise en grande partie, soit être taxé de néocolonialisme parce que on voudrait veiller de trop près au bon usage de ces fonds?
Donc une dernière question, après c'est fini. La suite, ce sera au buffet. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez pendant le buffet.
Oui, je suis généticienne à l'INRA. Vous avez parlé rendement et vous avez parlé OGM. Une variété, pour qu'elle ait un bon rendement, le caractère le plus important, c'est la date de floraison. Donc, c'est-à-dire qu'une variété, elle est adaptée à une latitude et une altitude donnée. Elle est adaptée à son environnement. Donc pour moi, un OGM, ça peut être la cerise sur le gâteau pour un caractère comme une résistance à une maladie, mais c'est déjà sur une variété qui est très bien adaptée à son environnement. Donc en Afrique en particulier, je pense qu'il y a déjà un gros travail de sélection classique à faire pour améliorer les variétés. Les OGM, déjà, ils n'achètent pas leurs semences, donc, mais ça peut venir qu'après un gros travail de sélection.
Voilà, donc tout plein de questions et des réponses brèves.
Bon, je vais démarrer par la question des OGM. Alors moi, je suis pas polytechnicien, je suis pas ingénieur des mines, je suis pas agro, je suis pas de l'INRA, même si à un moment j'ai voulu être de l'INRA, mais pour d'autres raisons, ça n'a pas totalement marché. Donc je suis un vague économiste et encore plutôt historien. Sur les OGM, ce n'est pas la solution, ça fait partie des solutions. Au Burkina Faso, où maintenant à peu près un tiers du coton est OGM, ils me disent oui, la semence vaut 4 fois plus cher, mais on s'en rattrape largement par augmentation des rendements et par moindre utilisation de phytosanitaires. Vrai, faux, je n'en sais rien. Quand j'ai ramené ça devant le mec d'Amis de la Terre qui siège au Conseil des biotechnologies, il m'a dit que j'étais acheté, bien entendu, par le grand capital. Bon. Mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Bruno Parmentier. De toute façon, le mal est fait. Je ne veux pas vous saper le moral, mais si vous êtes généticienne à l'INRA,
Foutez le camp. Je ne comprends pas que quelqu'un de jeune comme vous reste dans un pays où on continue à légaliser. Nous avons envoyé quand même comme vice-président au Parlement européen un type fils d'un ingénieur INRA, je le signale, dont le titre de gloire est de faucher des livres ouverts. J'ai pas aimé le jour où je lui avais dit que je mettais ça à peu près au même niveau que les autodafés de livres dans l'Allemagne nazie de 1933. Ça, il n'avait pas du tout aimé, mais c'est à la limite, c'est le même type de raisonnement. Et ce sont vraiment des gens qui refusent de toute façon toute forme de progrès. Donc je ferme la parenthèse ici. Ceci étant, vous avez raison, c'est une cerise sur le gâteau. Et je pense que sans OGM, on peut déjà faire énormément de choses. Mais on a sur les OGM les mêmes refus qu'on a eu au départ sur la Révolution verte. La Révolution verte, c'était quand même le passage, pour une grande partie, à des semences hybrides. Donc, c'est déjà un choc économique. Vous faites passer un paysan d'un modèle dans lequel il récupère sa semence, au fond, il vit un peu en économie circulaire, quelque part, à un moment où il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui faire du crédit de campagne. Il rentre dans une économie marchande. Et c'est pas évident à gérer. Donc là, si vous voulez, on a les mêmes problèmes. J'arrête là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé l'image de Bruno Parmentier. On passe du laboureur à l'éleveur de vers de terre. Et c'est vachement, vachement plus compliqué. Commerce équitable, prix juste, oh, c'est mignon. C'est bien parce qu'on se connaît, je ne suis pas plus méchant. Mais bon, c'est très bien. C'est pas ça. D'abord, je ne sais pas ce qu'est le juste prix. Relisez saint Thomas d'Aquin, voire Aristote, qu'est-ce qu'un juste prix ? Si c'est pour vous donner bonne conscience, à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, vu la part qu'il y a dans le café, dans votre dosette de Nespresso, ou dans votre chocolat que vous allez acheter pour Noël, on pourrait le payer 2-3 fois plus cher, ça ne changerait pas tellement les équilibres économiques. Simplement, quand on dit commerce équitable, ça veut dire qu'il y a une partie équitable, une partie qui n'est pas inéquitable. Le prix sur le marché mondial, il n'est ni juste ni injuste. À un moment donné, au fond, il constate un rapport entre offre et demande. Pourquoi est-ce que le prix du café a été déprimé ? Parce que qui est le deuxième producteur mondial de café ? Le Vietnam. Et la montée en puissance du Vietnam, pendant 10 ans, ça a fait que les prix du café ont été déprimés parce que nos consommations n'étaient pas très très élastiques. Donc le commerce équitable, c'est gentil, c'est dangereux, et je pèse mes mots, dans un certain nombre de cas, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Mais au fond, ça montre qu'on peut aussi jouer de la fibre et de la générosité des gens. Donc il ne faut pas le condamner. Simplement, il demande à être tellement expliqué que ce n'est pas évident. Les biocarburants, pour moi, c'est une hérésie, du moins dans cette génération actuelle. Je trouve qu'il est une aberration de cultiver des plantes alimentaires pour en faire de l'énergie, que le programme américain sur le maïs est aberrant, mais c'est une manière de subventionner l'agriculture sans passer sous les fourches codines du GATT, enfin de l'OMC. J'espère, mais j'y connais rien, que des ingénieurs brillants nous feront vite passer à la biomasse de deuxième, voire de troisième génération, c'est-à-dire la production d'éthanol cellulosique à partir de déchets agricoles, forestiers ou de déchets ménagers. Mais le biocarburant dans cette génération actuelle, ça peut être un élément d'équilibre des marchés. Ce qu'on a en France comme capacité, c'est largement suffisant. Et même la meilleure des plantes dans ce genre, qui est la canne à sucre quand même, dont le rendement énergétique est largement positif. Je vous rappelle que la canne à sucre, c'est aussi une longue, longue histoire d'esclavage et qui, quand on va un peu regarder au Brésil, il y en a encore un petit peu dans les zones de canne. Quelle garantie pour l'aide ? Là, on retombe sur le problème de la gouvernance. Mais je crois qu'il faut accepter que l'aide, de temps en temps... soyons honnêtes, l'aide à des programmes agricoles, c'est peut-être là où il y aura le moins de déperditions. Quand vous faites de l'aide budgétaire, c'est encore pire. Mais l'aide à des programmes agricoles, à des programmes de garantie de prix, avec la nécessité de construire les infrastructures qui vont avec, on peut se dire que la déperdition sera moins forte. De toute façon, vous ne faites pas d'illusions. Si, parce que on donne dans le manichéen en disant, et c'est facile ce qu'on fait tous les deux en disant c'est la faute aux gens de Washington, mais les gens de Washington... Moi, je me souviens de négociations à Washington pour essayer de sauver la caisse stable de Côte d'Ivoire. Et il me disait, mais enfin, vous n'allez pas défendre ce machin-là, qui était, c'est vrai, d'une inefficacité administrative, d'une certaine forme de corruption, mais plutôt de redistribution des richesses dans des modèles qui n'étaient pas nos modèles rationnels. Qui est une autre définition de la corruption, mais qui est beaucoup plus... Non, c'est beaucoup plus, finalement, c'est le problème de la gestion du clientélisme à la romaine. Un homme riche doit s'enrichir de manière à enrichir et redistribuer autour de lui sa gens et l'ensemble de ses clients. Et c'est comme ça un peu que ça fonctionne. Donc faut pas être trop regardant, mais c'est vrai que la plupart de ces institutions... n'était pas, il se disait, dans l'état producteur de cacao au Nigeria, lorsque la Banque mondiale a exigé que l'on supprime le marketing board du cacao au Nigeria, et les Nigériens disaient, ça y est, enfin, le Nigeria est sauvé. Le marketing board du cacao était un des hauts lieux de la concussion. Bon. Mais ça, vous n'aurez jamais de garantie, c'est le risque de l'aide, mais il faut quand même le courir.
Et pour convaincre les pays d'aider des époques, vous êtes optimiste?
Je serais un peu comme ce que disait Bruno Parmentier. Soit on les aide, soit on les aide à prendre un vrai chemin de développement, soit c'est un problème qui nous reviendra. Vous n'imaginez pas, je vais vous faire un peu de pub pour mon prochain bouquin, qui s'appelle Le siècle de Jules, parce que Jules est un petit garçon de 6 mois qui a la malchance d'être mon petit-fils, et donc j'imagine ce que va être le 21e siècle. Vous imaginez un monde où les quelques morceaux de pays développés de la planète vivraient à l'abri de barbelés comme le long du Rio Grande ou à Ceuta? Moi, je ne l'imagine pas. Donc, j'imagine un monde qui va être capable de se développer. Alors, ce sera chaotique, ce sera créateur d'inégalités, comme on le voit en Chine, mais je n'imagine pas que nous puissions, et notamment dans le cas de l'Afrique qui nous touche le plus, que nous puissions laisser tomber, comme ce serait un peu un réflexe en se disant « il n'y a plus rien à faire ». Au contraire, il faut le faire. Et simplement, c'est vrai que l'aide a été souvent mal orientée, a été, dans beaucoup trop de cas, à conforter les oligarchies. Et c'est vrai aussi que les économistes des années 70 et 80 se sont lourdement trompés tous les économistes du développement. Souvenons-nous du modèle de l'industrie industrialisante en Algérie, autre chose de ce genre.
Voilà. Est-ce que les autres veulent ajouter quelques mots?
Bon, juste deux phrases rapidement, puisqu'on n'a plus le temps. Peut-être l'aide alimentaire coûte cher. Essayons la guerre. Voilà. Je veux dire, je le dis quand même très sérieusement. Bon, je m'aperçois que les généraux commencent à s'intéresser à moi. Alors moi qui étais assez antimilitariste, je ne suis pas très... Enfin, maintenant, c'est les généraux. Mais bon, ils vous disent ça clairement. Hein. Est-ce que les paysans du monde vont y arriver? Sinon, c'est nous qui reprenons la main. Je veux dire, il ne va pas y avoir de paix dans ce monde s'il y a 2 milliards de gens qui ont faim au prix où est la Kalachnikov. Voilà. Alors, les Américains ont su trouver 5% de leur PIB puisqu'ils avaient vraiment peur de Staline. Visiblement, on n'a pas encore très peur du terrorisme, des millions de gens qui vont déferler sur les quelques endroits où on est riche. On n'a pas encore assez peur. Bon, voilà, c'est un peu comme quand je trouve qu'on ne donne pas assez d'argent à l'enseignement. Effectivement, l'enseignement coûte cher, essayez l'ignorance. Voilà. Bon, alors maintenant, j'ai envie de rajouter un petit mot sur les biocarburants. Les biocarburants de première génération, c'est une espèce de folie qui nous a pris, quoi. Je veux dire, brûler le meilleur de la nature, le grain de blé ou le grain de maïs ou le grain de colza dans son moteur, c'est comme si j'allumais mon feu dans ma cheminée avec des billets de banque pour brûler des glands. Bon, mais quelque part, on ne le voit pas autant quand on est dans la voiture. Alors qu'il y ait un peu de régulation marginale, hein, le grain, il est d'abord pour manger, puis l'année où on en a trop, on peut en brûler très marginalement, mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le contrat du grain pour la voiture, et puis quand il y en a un peu trop, c'est pour manger. Alors ceci dit, l'absurdité, c'est qu'il faut revenir, dans ma cheminée, je brûle le chêne, et non pas le gland. Donc, de fait, l'ensemble des plantes, quand même, l'ensemble, quelque part, fixe de l'énergie, fixe du carbone. Donc, il n'est pas impossible qu'à terme, on trouve effectivement des plantes, qu'on arrive à extraire cette énergie dans l'ensemble des plantes. Mais il faudra quand même bien dire, les bonnes terres, il y en a très peu, les bonnes terres, c'est pour manger. mais on ne cultive que 12 à 15% des terres de la planète. Il en reste un peu. Alors, par exemple, en Europe, enfin, en France, où est-ce qu'on doit faire les biocarburants? Dans les Landes. Puisque maintenant, on le sait, mais on n'a pas le courage de le dire, la menuiserie dans les Landes, c'est fini. On ne peut plus continuer à planter des arbres dans les Landes. Les tempêtes qui arrivent maintenant abattent les arbres. Or, il faut 50 ans pour récolter un arbre. Personne ne peut imaginer que dans les Landes, il n'y aura plus de tempêtes. Or, avec le réchauffement de la planète, les tempêtes sont plus fortes. Donc, il va falloir se redire des choses aussi essentielles que les Landes ne s'appellent pas de bosquets, ça s'appelle les Landes parce que, voilà, on y faisait pousser des roseaux. Donc en France, si on doit faire des biocarburants, ben c'est là. C'est là où on a mis la plus grande forêt d'Europe parce que provisoirement les tempêtes permettaient de récolter des arbres. Maintenant, il faut trouver probablement là des plantes qui permettent de fixer du carbone et de faire un peu d'énergie parce que très probablement dans les Landes, on ne fera pas de nourriture. Mais c'est le regarder comme ça, il faut préserver la nourriture dans les endroits où on peut la faire. Et puis ailleurs, si on peut trouver des plantes qui fixent de l'énergie et faire marginalement un peu d'énergie, ce sera pas mal.
Voilà. À vous.
Juste deux phrases sur la question intéressante qui revenait en fait sur l'impact climatique des politiques agricoles. En fait. Enfin, dans la présentation, on a évoqué le côté complètement l'autre côté de la chaîne qui était la déforestation pour planter par exemple de la canne à sucre, qui a un impact climatique de l'autre côté. Et là, on ne peut que constater que les États ont des discours schizophrènes, qu'il y a un arbitrage à faire à un moment entre les propositions agricoles et les propositions climatiques d'un autre côté. Or, on remarque, même à notre niveau, dans les services déconcentrés, même entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture, parfois culturellement, c'est difficile de se parler. Et on se rend compte qu'en écoutant les discours un peu même au niveau étatique ou au niveau international, que sur ces sujets-là, il y a vraiment des objectifs qui ne sont pas compatibles. Donc à un moment, il y a un arbitrage à faire, probablement ni complètement dans un sens, ni complètement dans un autre. Puis un autre élément, il y a des gens bien placés pour le savoir dans la salle, c'est sur les agrocarburants, ce qui est assez rigolo, c'est de voir les calculs de rendement, avec comment les gens se sont rendus compte que finalement, c'était pas aussi, ça n'avait pas des rendements aussi bons que ce qu'on croyait au début. Donc c'est aussi se dire que finalement il y a des arbitrages qui sont faits au niveau international sur des calculs de gens certes brillants mais qui font ça sur table. Voilà, juste pour dire que je pense que les articulations entre l'agricole et le climatique c'est vraiment une nécessité. À quand des sommets joints pour parler de faim et enfin c'est bizarre, là bon, tout le monde est à Copenhague, les gens étaient bien moins... Là, à Rome, pourquoi pas avoir fait de sommet joint? Ce ne sont pas les mêmes organisations au niveau international, certes, elles ne sont pas peut-être aussi efficaces. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on risque de prendre des engagements d'un côté qui ne sont pas compatibles avec les engagements de l'autre.
Merci pour cette soirée.